des années 70, ce morceau. Elle a été payée 30 livres sterling pour chanter ça, pour chanter cette improvisation. Elle n'était pas très contente de ce qu'elle a fait. J'ai vu les Floyd plusieurs fois en concert. Jamais ils n'ont trouvé de choriste capable de refaire ça. Au début des années 2000, on l'a quand même crédité d'être co-autrice du morceau. Elle a reçu une jolie indemnité, 600 000 livres sterling de droits d'auteur qui n'avaient pas été versés. On la connaît sous un pseudo, Alice Pepper, et pourtant, de son vrai nom, l'une des plus grandes chanteuses, Claire Tory. Voilà, elle s'appelle comme ça, l'anonyme probablement la plus célèbre du XXe siècle. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a commencé sa carrière en 1967. Elle avait tout juste 20 ans. Et voilà, avec un petit morceau qui en dit tellement sur la suite. The music attracts me. Allez, en attendant de nous retrouver, portez-vous bien. Et surtout faites gaffe au rock'n'roll.
Delicious flavor of your delightful candy kisses. Their delicious flavor.
Vous écoutez HDR
99.1.
ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ
ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਲਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਹਸਾਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੀ ਲਾਂਗੀ ਜੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੀ
ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ
Il est 15h.
Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi ?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster ?
Ah oui, mais ?
On se connaît ?
Ouais. On se connaît.
Mais c'est de la merde!
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Déjà Vu, l'émission cinéma qui parle des films et de leurs remakes. Mieux connu, meilleur que l'original ou simplement inutile, on est là pour en parler et déterminer lequel est le meilleur. Aujourd'hui, pour se retrouver, on a dû passer par des trappes mécaniques et des passages secrets derrière une bibliothèque afin d'arriver dans un sous-sol qui cache un labo. Un labo éclairé par des néons, avec des bocaux et aquariums contenant des bras, des jambes et autres, conservés dans du formol, mais aussi une table d'opération et un paratonnerre. Bienvenue dans le labo du docteur Frankenstein. Donc, à l'occasion de la sortie de The Bride de Maggie Gyllenhaal en mars 2026 et du Frankenstein del Toro en octobre 2025, on vous propose un double épisode. Donc, il y aura un deuxième épisode plus tard sur La fiancée de Frankenstein, mais aujourd'hui, on va se pencher sur différentes versions de Frankenstein. Donc, ce sera sur la même formule que des épisodes que vous avez peut-être déjà écoutés, sur Dracula, Pinocchio ou encore A Star is Born. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous vu la dernière version de Guillermo del Toro, sortie sur Netflix dernièrement, et chacun et chacune s'est penché sur une version antérieure. Et pour ce faire, on est donc allé piocher dans plein de petits morceaux de chair et de cervelle pour recomposer une seule et même équipe bien vivante. Autour de la table, au réglage mécanique, on aura Maxime. Au bistouri, c'est Nathan.
Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Et au paratonnerre, c'est Mélissa. C'est le paratonnerre, ça c'est. Et toute cette opération est finement orchestrée par un savant fou, notre invité, le docteur Tom.
Ami.
Donc le roman dont est tiré tout ceci a été écrit par Mary Shelley en 1818. Il y a quelques bruits de créatures.
Oui, c'est un laboratoire vivant, hein. il y a des expériences.
Donc ce roman a été adapté moult fois au théâtre et au cinéma. Un petit résumé peut-être pour commencer ?
Alors l'histoire, c'est
du
celle
du livre
de...
que tu as fini bien sûr.
Oui, j'ai à moitié fait mes devoirs pour cet épisode parce que j'ai regardé la version de Guillermo del Toro, une autre version dont on en parlera plus tard, celle de 1931. Et j'ai commencé à lire le bouquin, mais j'ai pas fini.
C'est déjà pas mal.
Oui. Après, les traceurs qu'on retrouve globalement partout, c'est le docteur Victor Frankenstein, ou Henri, selon les versions.
Ah.
Eh oui. Qui est un savant... on va dire savant
respectable.
Fou. Voilà, respectable, mais avec des idées un peu étranges, puisqu'il est obsédé par les questions de vie et de mort, qui veut à tout prix vaincre la mort en recréant la vie à partir de plusieurs morceaux de cadavres mis bout à bout, un peu d'électricité, et voilà.
Comme et, nous tous.
Comme nous tous. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu, puisque la créature qu'il crée, il ne l'imaginait pas comme ça. Elle est très effrayante, un peu dangereuse, et très vite, il va avoir envie de la fuir, voire de s'en débarrasser.
Et puissante.
Mais est-elle si dangereuse et si malveillante que ça ? C'est la grande question.
Qui est le monstre dans l'histoire ?
Exactement.
Qui est le docteur ?
Qui est Mary Shelley ?
Voilà. Tant de questions auxquelles on ne répondra pas ce soir.
Alors moi, je fais déjà une digression, si vous voulez.
Non, mais...
j'ai lu un petit peu la genèse de pourquoi Mary Shelley a écrit cette histoire. En fait, à l'époque, entre petit aristo écrivain avec des amis et puis son futur mari, je crois, il partait en vacances à la campagne. Et un soir, au coin du feu, ils se faisaient un petit peu chier, je pense qu'il pleuvait, et ils se sont donné un petit jeu en disant « Ah ben, on va écrire une nouvelle !» Et en fait, ils ont tous fait une petite histoire. Et apparemment, certains, ils n'ont pas vraiment joué le jeu, ils ont plutôt picolé. Et elle, c'est la seule qui s'est vraiment mise à fond dedans, et surtout qui a eu une bonne idée, quoi. Et après cette soirée-là, elle s'est dit, ah ben, je vais peut-être le publier. Et puis, on connaît la suite, quoi.
Pas mal, pas mal.
Donc, c'est parti d'un petit bœuf de.
Ouais. J'ai l'impression que tous les storytelling de trucs, c'est. Alors, on s'ennuyait, donc on a fait ça.
Là, il y avait une tempête, ou une. Je crois que c'était une grosse tempête à cette époque. Et... ça a été adapté 2 ans plus tard au théâtre, il me semble. Donc, c'était succès immédiat.
Et d'ailleurs, alors c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais je crois que dans l'adaptation de La fiancée de Frankenstein. Ils reprennent ça en ouverture, d'avoir Mary Shelley et ses amis dans leur maison avec la tempête, en mode, bon alors, raconte-nous la suite de ton histoire. Hein, un peu voir.
C'est pas du tout discret, le gros coup de
coude. Mais il y a un film sur ça, comment il s'appelle, où l'histoire du film, c'est l'histoire de la création de,
ah bon
du livre.
Je me j'ai cru le voir, ça doit s'appeler Mary Shelley, je crois. Juste Mary Shelley ou Shelley.
Ouais, Shelley, je crois.
Ah,
et on l'a pas vu, on a déjà vu plein de
fois. Ça va, voilà. On a déjà écumé tout le reste. Frankenstein au Cinoche, donc il y a la première adaptation ciné du roman, elle a été projetée en 1910, donc c'était un film muet de 16 minutes, mais la version que tout le monde considère comme la première, c'est celle de 1931, dont on a parlé Nathan, elle est réalisée par James Whale avec le mythique Boris Karloff, donc le visage qu'on connaît tous quand on parle de Frankenstein.
Avec sa grosse tête là.
Donc c'est une adaptation indirect du roman en fait, parce que sa source principale c'est une pièce de théâtre de Peggy Webling qui avait été écrite en 1927. T'en as pensé quoi toi du 1931
Alors je trouvais que c'était assez expéditif, parce que en fait l'intro du film c'est, alors je crois qu'on voit le docteur Frankenstein et son assistant qui s'appelle pas encore Igor.
Je sais pas comment il s'appelle.
Qui attendent après un enterrement pour pouvoir récupérer le cadavre, tout ça. Juste après, tu vois la fiancée du docteur Frankenstein, pas du monstre, qui dit « Oh, ça m'inquiète quand même en ce moment, je le vois pas trop, je sais pas ce qu'il fait. » Et du coup, elle va le voir avec son ami, et en fait, il est directement en train de créer le monstre. Genre, bah, vous tombez bien, regardez, j'appuie sur le bouton, et voilà.
On n'a pas de temps à perdre.
Et donc, ouais, c'est expéditif et assez éloigné du livre. Puisque le livre, on le verra plus tard, mais on voit beaucoup plus l'enfance du docteur, son idée par rapport à la création, tout ça. Le monstre est beaucoup moins, on va dire, unilatéral sur le côté gros, tout ça. Ouais, l'adaptation, la première adaptation est quand même marquante sur le côté vraiment gothique, qui a inspiré beaucoup d'images par la suite. Et l'idée que je me fais, mais ça va être vérifié aujourd'hui, c'est que beaucoup d'adaptations après sont basées plus sur cette première adaptation-là que sur le livre.
Ouais. Donc la version de 1931, j'ai listé 3 raisons de voir cette version-là. Donc déjà, comme t'as dit un petit peu, découvrir l'origine du film mythique, enfin des scènes mythiques. Et surtout, la scène qui est devenue un peu un mème avec cette fameuse réplique « It's alive! Alive !» où il est carrément frénétique et tout. Deuxième raison, c'est le noir et blanc et les décors justement expressionnistes avec l'esthétique gothique que moi j'ai trouvé vraiment très réussi. Et troisième raison, le maquillage du monstre qui a été créé par un maquilleur qui s'appelle Jack Pierce. Et à défaut de trouver une description précise dans le roman de Mary Shelley, parce qu'apparemment elle n'a pas vraiment décrit la créature, lui il s'est inspiré des opérations de cerveau avec des images de chirurgiens qui découpent le sommet de crâne, etc. Et donc il a dessiné un crâne, un front carré, comme on le connaît aujourd'hui. Et Boris Karloff trouvait que même avec tout ça, son regard était trop vif. Alors il lui a aussi fait des paupières en cire. Ouais. Et donc c'est quand même assez impressionnant, même si c'est 1931, je trouve que c'est assez net l'image. Alors je sais pas si c'est parce que la version est remasterisée, mais en tout cas c'était plutôt techniquement bien foutu.
Ah, c'était de la bonne péloche, hein.
Ouais, la bonne péloche.
Ça vieillit bien la péloche, hein.
Ouais. Et donc c'est un film qui fait partie de la série des... ce qu'on appelle Universal Monsters, donc c'est une série de films d'horreur qui a été créée par Universal entre 1923 et 1960. Donc il y a eu entre autres Notre-Dame de Paris, Le Fantôme de l'Opéra, Dracula, L'Homme Invisible, etc., etc. Donc on a fixé l'univers de Frankenstein dans cet imaginaire collectif qu'on a tous, et on compte aujourd'hui 84 films.
Oh, wow.
Ouais, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu les 84, mais il y a probablement des gens qui ont fait des thèses dessus.
Par rapport au film de 31 et au livre, effectivement, le livre, il n'y a pas vraiment de description du monstre. Et c'est aussi très expéditif sur la création. Il a cette idée de créer, de faire revenir un cadavre à la vie. Et la page d'après, bah, c'est bon, il a réussi, sans qu'on dise vraiment comment ou quoi. Et dans le film, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que quand il a créé le monstre, le docteur Frankenstein est avec son professeur. Et le monstre commence à vouloir s'échapper, tout ça. Il fait attention, il a la force de 10 hommes. En fait, à deux, il le maîtrise facilement et ça fait un peu cheap comme combat. Et bon, voilà, c'est...
Les calculs sont pas du tout bons là.
Heureusement qu'on a la force de 5 hommes chacun.
Là, 5 et toi 6, parce que du coup ça fait un de plus.
Oui, avec le bouquin, c'est pour ça qu'on peut être déçu, de s'attendre à quelque chose d'hyper sensationnel et hyper violent ou hyper monstrueux, alors qu'en fait c'est vraiment une réflexion sur ce truc de cette histoire de création de l'homme, Dieu, etc. Prométhée.
Oui, ouais. Oui, c'est même d'ailleurs, ça fait partie du titre. Enfin, c'est Frankenstein.
Frankenstein Prometheus.
Le Prométhée.
Bah, d'ailleurs, dans la version de Guillermo del Toro, il ressemble beaucoup au monstre dans Prometheus. Mais oui, le titre.
Le Prométhée moderne.
Le Prométhée moderne, ouais. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a fait ses devoirs? Vous savez, c'est quoi le mythe de Prométhée? J'ai relu vite fait.
Il apporte la flamme.
C'est ça, en fait, c'est dans la mythologie, c'était un titan. Et en fait, les humains, à cette époque-là, dans la mythologie, n'avaient pas de conscience. C'était un petit peu comme des bêtes. Et en fait, c'est lui qui leur amène la conscience des êtres de connaissance et de pensée.
Il n'y a pas aussi le truc où il crée justement l'homme avec de la glaise,
ouais. Alors peut-être,
je crois que c'est le même personnage. Mais à d'autres moments
sourcé,
de ça...
Hein. Non mais c'est sourcé comme podcast, Je vais te dire oui.
Oh, elle a vérifié.
Non mais c'est tellement le bordel aussi, la mythologie... On ne sait pas si c'est le fils ou le père de quelqu'un, des fois c'est les deux en même temps. Donc,
ah ouais, nous on ne sait plus. Hein. Donc ouais, du coup dans les 84 adaptations, il y a des sortes de suites. Donc il y a le fils de Frankenstein, le fantôme de Frankenstein, la revanche de Frankenstein. Il y a des crossovers, Frankenstein versus Dracula.
Ah bah oui, c'était la Hammer ça.
Ouais. Frankenstein rencontre le loup-garou. Frankenstein contre l'homme invisible, ils ont bien poncé le truc. Et d'autres fois, c'est juste le style de la créature qui est repris, par exemple le personnage du majordome dans La Famille Adams, ou des films d'animation comme Frankenweenie ou Hôtel Transylvanie.
C'est devenu une créature de la culture populaire à part entière.
Carrément.
Bah moi je trouve que ce qu'on pourrait dire maintenant, le caractère design un peu du monstre, il est devenu iconique à partir de cette version-là de 31 où je pense que n'importe qui peut dessiner à main nue un peu une grosse tête carrée, un peu vert, juste des et cheveux sur le dessus,
des clous sur la tête.
Ouais,
et les deux.
Ça dépend peut-être des versions, je sais pas.
Et en fait, c'est devenu culte direct, quoi.
It's a phenomenon known as déjà vu.
It's coming from the deep, dark recesses of the mind of Mel Brooks. I love him. Young Frankenstein.
Life, you hear me? Give my creation life.
This guy means business.
Starring Gene Wilder as Dr. Frankenstein.
That's Frankenstein.
Peter Boyle as the monster. Marty Feldman as Igor.
My grandfather used to work for your grandfather.
I'm sure we'll get along splendidly. Oh!
Alors, on va commencer par une version qui n'est pas une version forcément fidèle au livre, mais c'est plutôt une parodie, Mélissa.
Frankenstein Junior, oui, c'est une comédie réalisée par Mel Brooks, qu'on connaît bien dans le genre, en 1974. Alors, je vais vraiment résumer. Il y a Frédéric Frankenstein, donc c'est un professeur de médecine. Il insiste pour qu'on prononce son prénom Frankenstein parce qu'il veut se distancier. Oula. Il veut se distancier de la réputation de son grand-père, Victor Frankenstein, qui était donc célèbre pour avoir créé un monstre. Voilà, mais finalement, il a hérité du château familial, donc en Transylvanie, donc pourquoi pas s'y rendre quand même. Et il va tomber sur les recherches de son grand-père. Dans ce petit panel, il y a Igor qui veut se faire appeler Igor un peu hein, pour se moquer justement de Frankenstein. Il y a Frau Blücher, la gouvernante inquiétante. Le petit running gag, c'est qu'à chaque fois que son nom est prononcé, il y a des chevaux qui s'énervent quelque part, genre c'est un peu lourd à la fin, mais au début aussi d'ailleurs. Il découvre donc dans la bibliothèque secrète de son grand-père toutes les recherches qui lui ont permis de donner la vie. Et donc forcément, paraît de lui, l'envie de faire comme son grand-père va prendre le dessus. Il crée donc un monstre, mais Igor, qui est d'ailleurs joué par Marty Feldman, qui a donc une particularité physique, hein, il a les yeux globuleux et qui regarde naturellement dans la mauvaise direction. Il est excellent, enfin moi je pense que c'est mon personnage préféré. Ce Igor est chargé d'aller chercher un cerveau, vous savez dans les formoles, sauf qu'il se trompe. Il prend dit abnormal brain, donc la créature s'anime mais elle a le cerveau de quelqu'un d'assez limité. Voilà, c'est le chaos dans la région. Il y a cette scène encore, je pense qu'elle doit être dans le livre avec l'ermite aveugle qui l'accueille, mais en fait c'est à peu près la seule scène qui m'a fait rire. En fait, il essaie d'être sympa, lui offrir des choses, mais comme il est aveugle, bah, il renverse tout, il le brûle, il lui enlève les trucs avant qu'il ait fini de les manger. Enfin, c'est vraiment genre, il est à merci pour tout et tout. Alors qu'en fait, c'est juste le pire moment. Voilà, ça c'est un peu drôle. Et Fred se rend compte que bah, les gens ont peur de la bête, quoi, du monstre, et qu'il faut essayer de l'humaniser. Donc on a une scène après un peu cabaret. Où ils chantent tous les deux Putin on the Ritz de Taco. Mais les gens ont quand même peur, voilà, même malgré le costume, malgré le chapeau haute forme, et ça ne suffit pas. Et à la fin, Frédéric décide de se sacrifier pour sauver sa création. Il transfère une partie de son propre cerveau et de son intelligence dans le monstre. Donc le monstre devient celui qui est cultivé, calme et capable de parler normalement. Tandis que, de manière très subtile, Frédéric perd un peu d'intelligence mais gagne une grosse qualité salace
une grosse qualité
voilà, je vous passe le détail mais
c'est joliment dit,
c'est toujours très profond,
c'est toujours très profond, ouais. Voilà, que bien. Dire, c'est un film en noir et blanc, donc en hommage voilà, au film d'époque, ce qui permet une bonne esthétique, un rythme un peu théâtral qui, moi, m'a un peu dérangé. Il y a des scènes où ils mettent 3 heures à réagir. Tu vois un peu la réaction de chacun. Enfin, c'est un peu étrange. Je pensais rigoler, j'ai dû être de mauvaise humeur. Parce que j'ai vraiment... J'ai regardé après des podcasts qui en parlaient. Ils étaient là, super, génial. Et j'étais bon, désolée.
Il y a un petit décalage. Voilà,
pour moi, il y a juste cette scène avec l'ermite qui fait n'importe quoi.
Il y a quel ermite.
Mais voilà, beaucoup, toujours, mais attends, quelle surprise, j'avais envie de dire Mel Brooks, beaucoup de plaques de cul, bon, c'est un peu évident.
Et toi, en tant que spécialiste de Mel Brooks, j'ai l'impression que ça n'a pas été ton préféré.
Ça n'a pas été mon préféré, non, le rythme en fait, surtout le rythme. Après, j'adore Gene Wilder.
Oui, c'est celui qui joue dans Charlie et Chocolaterie.
Qui pareil, en fait, en fait des caisses, parce qu'il est connu, voilà, pour être un peu intense. Et t'as l'impression qu'il y a un peu un blanc et lui qui fait son truc et puis on attend pour passer à la suite. Enfin, je sais pas,
c'est un peu un one man show filmé, parfois,
mais il reste Igor qui est quand même ça va aller avec votre boss, quel boss, enfin, tu vois, il est un peu, il a pas trop conscience qu'il est pas normal, donc c'est assez drôle sur ça. Et la scène de l'ermite, pas Thierry.
Ça marche.
Je me répète, mais j'ai rien de plus à dire.
Bah, s'il y a rien à dire, on
voilà,
arrête.
C'est bon.
On arrête, c'est fini. Allez, merci.
Avez-vous déjà vu?
J'enchaîne avec une autre parodie, en fait. Il y en a eu vraiment pas mal, je pense, dans ce genre-là, mais un petit mot sur une version française de Frankenstein. C'est un film qui est réalisé par Alain Gessua, donc je le connaissais pas, moi, mais apparemment c'est un réel scénariste et romancier qui a eu une petite notoriété dans les années 60. Peut-être que vous le connaissez. Non.
Petite notoriété.
Petite notoriété dans ce cas. Non, mais j'ai vu, il a fait pas mal de trucs.
Ok, on est méchant.
Donc c'est sorti en 1984, mais ça s'appelle Frankenstein 90, parce que c'était vraiment pour dire que c'était moderne. Trop stylax. Je l'ai vu et c'était une catastrophe. Ouais, en fait, ils essayent de partir dans plein de genres, mais aucun n'est maîtrisé. Donc t'as du fantastique, de l'horreur et du comique, mais en fait... Ouais. C'est pas drôle et ça fait pas peur. Donc voilà, moi je l'avais surtout regardé parce que l'affiche était très attirante.
Maîtrise de l'affiche au moins.
Ouais, le docteur Frankenstein est interprété par Jean Rochefort.
Oh, pourquoi pas.
La créature est interprétée par Eddie Mitchell.
C'est une comédie musicale ou pas?
Bah ça aurait été peut-être mieux.
S'il la rate aussi la comédie musicale.
Malheureusement. T'as aucun talent, désolé.
Ouais, malheureusement il ne chante pas. Donc la créature qui n'a pas de nom normalement s'appelle tout simplement Frank. Ah, oui.
Voilà, c'est toute la blague que je voulais. Ils m'ont gâché ma blague.
Dans mes notes, j'ai écrit « La mise en scène a été pensée avec le cul », comme on dit dans le langage de la critique cinématographique. Clairement, il n'y a pas grand-chose qui tient le scénario. Il a tout misé sur le fait qu'on voit des boobs, comme Mel Brooks.
Bah oui, il y a un truc.
Et bien sûr, il y a une ribambelle de scènes de sexisme ordinaire des années 80, avec un viol sans traumatisme ni répercussion. Une autre scène où Victor programme informatiquement le cerveau de la fiancée de Frankenstein, parce que là, il fait les deux dans le même film. Ah. Et quand il programme le cerveau de la meuf, il va faire répéter à l'ordinateur « Je dirai oui à tout ce que me demande mon homme. »
C'est
vrai ? Oui. Et un dernier exemple, quand Eddie Mitchell... Donc Franck, quand Franck refuse de l'embrasser, elle le traite évidemment de grosse pédale. Et plusieurs fois dans le film,
c'est
en fait,
c'est pas un problème de doublage.
Non, bah non, c'est français. Et en fait, plein de fois dans le film, il y a les voix qui sont détraquées et on a l'impression d'un disque rayé qui saute. À un moment donné, c'est hyper gênant parce que le son des deux personnages bug en même temps et elle, son son, c'est tout le temps. Pédale, 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 pédale.
Ah oui. Ils ont pas juste voulu que ça passe à la trappe, quoi.
Ah ouais, c'était dur. Pendant le visionnage, je me suis dit que c'était peut-être un défi de faire le Frankenstein Junior à la française.
À la bonne franco-française.
Mais du coup, je crois que c'est un peu loupé, malgré tout. Dommage, parce qu'en fait, il aurait pu